Moi, j'ai envie de répondre à certains points. Je crois, comme toi, je vais dire différemment, mais il y a deux écueils dans les sciences sociales. Le premier écueil, c'est la généralisation. C'est la violence de la généralisation et de l'abstraction. Mais il y a un deuxième écueil que j'appellerais, tu vois, je te rejoins, l'ethnographisme, qui deviendrait une activité notariale. Et là, je crois que personne n'a fait mieux pour remettre en question le côté dérisoire de cette activité-là que Georges Perec. Hein? Parce que Georges Perec, c'est très rare. Hein? C'est à la fois complètement scientifique et tellement ludique. Bien. Donc je te rejoins. Mais l'ethnographie, c'est une micrologie. Hein? Moi, c'est comme ça que je la définis. C'est une micrologie. Et on peut reprendre la phrase que tu dois bien aimer aussi, Yves de Geertz. Nous sommes les miniaturistes des sciences sociales.
Ah oui, c'est joli.
Hein? Donc, pour nous, la connaissance vers laquelle nous nous dirigeons, elle n'est pas de l'ordre de la fresque, mais du détail. Et bon, depuis plusieurs années, je suis sensible à ce que j'appelle le grand, à de grotesque, d'orgueilleux, de dangereux, les grands mots, les grands discours, les grandes synthèses, les grandes surfaces, les grandes entreprises, et ce qui m'incline toujours à aller vers les petits théâtres, les petites salles de cinéma, et maintenant écrire pour des petits éditeurs. Et là, j'introduis des notions que j'ai introduites l'autre jour quand on a fait la présentation du livre à la librairie. Pour moi, le petit, la revendication du petit, c'est pas du tout revendiquer le bonsaï contre le séquoia. Petit peut être minable, hein, peut être lamentable, mais je vais vers le petit qui est du concis, qui est du précis. Et là, en littérature, l'art du haïku me surprend beaucoup. Vous savez, c'est un poème de 17 syllabes en 3 vers. Alors là, pour moi, il y a des précurseurs, il y a des têtes chercheuses. Peut-être tout à l'heure, je vous répondrai sur le modal, mais je reviens toujours à ces auteurs qui s'appellent Tchekhov, Catherine Mansfield, Clarice Lispector, Kafka, Beckett. C'est des auteurs qui vont vers le plus grand dépouillement, mais aussi Wittgenstein, mais aussi Bachot, l'un des maîtres du haïku. Donc il y a des choses qui m'inspirent beaucoup. C'est ce que Ozu appelle le cinéma à voix basse. Ça, c'est intéressant quand on travaille sur les sons. Cinéma à voix basse, il crée la formule pour parler de lui-même et de Naruse par opposition à Kurosawa et à Mizoguchi. Ce que Jiao Qingyang appelle la littérature froide, ce que Deleuze appelle la littérature sur un mode mineur, pour désigner Kafka, ou ce que Grotowski appelle un théâtre pauvre. C'est, pour moi, c'est la même question quand on, quand il est question de la mise en scène. Par exemple, j'ai vu avant-hier au théâtre de Célestin une mise en scène très exubérante de Hamlet. La même pièce, le même texte, vous pouvez en faire une mise en scène extrêmement dépouillée. On ne sait pas. C'est pas le texte, c'est le rapport qu'on entretient avec lui. Alors, petit rien, tu as dit, mais je dis surtout petit lien. Le petit lien, ce sont des liens qui ne sont pas fortement syntaxiques. Ce sont des liens qu'on appelle en linguistique parataxiques. Ça ne s'emboîte pas exactement, ça ne s'accorde pas, et c'est légèrement sonore. D'un point de vue des sonorités, c'est légèrement désaccordé. Qu'est-ce que je rajouterais encore? Alors j'introduis le thème du petit et je le continue dans ce livre. Je crois qu'aujourd'hui, seul le petit, si vous avez compris ce que j'ai dit, le petit est susceptible de résister au grand. De résister au grand et de montrer le caractère grotesque du grand. On ne peut plus faire confiance au local pour résister au global, parce que le local est lui-même globalisé, mais seul le petit nous prémunit de ce qu'il y a de grotesque, de ce qu'il y a de uniforme, univoque dans le grand. Enfin, là, tu as évoqué la question de l'impossibilité de revenir aux universaux, ce danger qui est toujours... Il n'y a pas d'universaux. Il est fort probable qu'il n'y en ait pas, qu'il n'y a pas d'invariants. De toute façon, ce n'est pas le problème des sciences sociales de faire surgir des universaux, des invariants. Mais ce que nous pouvons faire beaucoup plus modestement, comme les cinéastes, comme les architectes, comme les musiciens, c'est faire varier. C'est faire varier. C'est apporter de la variation. Je crois que l'esthétique, c'est l'art de la variation et que le travail des sciences sociales, c'est aussi le travail de la variation et pas de rechercher des invariants. Ça, c'est beaucoup trop orgueilleux. Je voulais finir de répondre à votre question sur la nécessité de l'analyse, l'analyse des ambiances. Je crois que l'unité d'analyse de l'ambiance... Ça ne peut pas être l'élément, mais le processus. Et ça ne peut pas être le mot, c'est la phrase. Et la phrase au sens langagier et au sens musical, de même que l'unité d'analyse de l'ambiance dans le travail du cinéma, c'est le plan. Et je réponds indirectement à votre question. Pour filmer les ambiances, comment construire un plan, où un plan commence-t-il, où faut-il l'achever. Donc voilà, c'est pas de. Toi, c'est un petit peu pour accompagner, compléter, commenter. C'est bon. Ouais.
Dans cette perspective d'analyse du petit, quelle autonomie du petit, en fait? Quel sens prend-il, si ce n'est par rapport au grand? Enfin, est-ce qu'on peut sortir d'un système de relation au grand, justement?
D'autant plus que nous sommes dans une situation mondiale où le capitalisme est grand. Le capitalisme est devenu exagéré, le capitalisme est devenu immense. C'est sur ce fond-là, c'est sur ce fond-là que je vois quand même de la difficulté et de la nécessité de ce que j'appellerais quand même la résistance. Et on le voit, mais on le voit très concrètement ici. Nous sommes une quinzaine. C'est très différent de travailler ici à une quinzaine que si on était dans une autre situation, dans un grand amphi. Donc ce que je veux dire aussi, c'est tout l'intérêt des petites. Des petites unités de recherche, des petits groupes d'études, mais aussi des petits restaurants et des petits commerces. Le grand, c'est sur fond de grand. Mais pour moi, je glisse très vite à grotesque.
Je pensais à l'art du détail, par exemple les analyses de Arras
dans la description littéraire, par exemple. Donc, à quoi sert le détail? Est-ce que le petit, c'est un détail?
Le petit passe par la description du grand.
Le petit passe par la description du détail.
Vous savez, en introduisant la notion de soin, mon idée, c'est de réintégrer du féminin dans l'épistémologie, dans le champ de la connaissance. Ça, c'est pas original, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent, hein, qui s'en sont aperçus, en particulier qui viennent du Canada. Mais pour moi, la notion de soin, c'est à la fois c'est une certaine durée et c'est une certaine échelle. C'est une certaine durée. Prendre soin de, prendre soin d'une situation, prendre soin d'une ambiance, prendre soin d'un objet de recherche, mais précisément, moi, j'utilise plus le terme objet, j'utilise que le terme sujet. Prendre soin, ça, c'est presque le contraire de chercher à résoudre un problème. Hein, c'est s'imprégner d'une situation. Mais pour s'imprégner d'une situation, il faut, comme le recommandait Jean Renoir, être passif avant d'être actif. Moi, j'aime bien cette expression du cinéaste Jean Renoir. Être passif avant d'être actif. Il faut être longtemps passif avant d'être actif. Donc, une certaine durée, prendre soin de, c'est prendre le temps de s'imprégner des situations. Et d'autre part, le soin est microscopique. C'est un changement d'échelle qui consiste à concentrer notre attention sur le minuscule. Mais là, nous avons toute une tradition hein, littéraire et sociologique qu'il fait depuis Walter Benjamin.
La conclusion de mon intervention de cet après-midi en me posant une question, mais que vous soulevez vous là, qui était peut-être de se demander si la première condition pour travailler sur le corps n'était pas précisément d'accepter de prendre du temps, et peut-être le temps de l'immersion justement, pour pouvoir peut-être décrire et dire ce corps, les corps en mouvement dans la ville, puisque c'est ce qui m'intéresse moi. Voilà, donc c'est juste une remarque. Voilà, je n'avais pas de conclusion fermée pour cet après-midi. Je pense que je n'en aurai toujours pas, mais je me demandais si ce n'était pas une des conditions premières, effectivement, d'arriver peut-être en étant un peu dépouillé, mais en ayant au moins l'idée de prendre ce temps et ce temps de l'immersion pour pouvoir accéder au corps. Voilà. Je voudrais juste finir et vous proposer ensuite d'aller déjeuner sur une deuxième remarque, c'est que j'ai l'impression aussi, et peut-être qu'on va y revenir cet après-midi, qu'on tourne autour de cette question du corps, et que c'est peut-être aussi là encore une condition pour pouvoir l'aborder. Il me semble, j'ai l'impression en vous écoutant les uns les autres ce matin, que c'est difficile d'aborder cette question de front. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il faut tourner autour et multiplier les points de vue. Oui, Jean-Paul.
Oui, non, c'était juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que vient de dire Rachel, puisque vous disiez tous les deux, en fait, sur la question de prendre soin, mais peut-être aussi sur la question du degré de détail ou d'analyse que posait Yves sur, enfin, par rapport à l'éthométhodologie. Je me demandais si. Enfin, comment est-ce que vous réagissez à certaines propositions actuelles qui consistent à dire, pour travailler sur des questions comme celle-ci, d'ordre esthétique, fondamentalement, alors est-il possible d'éviter de travailler soi-même ou de prendre soin soi-même de son propre corps? C'est-à-dire de se dire, c'est les propositions par exemple d'un Schusterman maintenant hein, qui... Il se dit on ne peut pas penser le corps ou l'expérience corporelle sans soi-même être impliqué dans une activité de prise de soin de son propre corps pour l'introduire dans la pensée qu'on peut en avoir. Alors voilà, c'était simplement une question très, voilà, très ouverte. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce type de proposition-là? Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'intéressant à introduire ou est-ce que ce n'est pas le propos de l'ethnographe?
C'est la question qui consiste à demander... jusqu'où l'anthropologue, par exemple, ou le sociologue peut-il être impliqué? C'est la question de l'implication. Et les réponses sont différentes. Il n'y en a pas une seule. Il y en a qui préconisent une position de distanciation, de retrait, d'observation distancée, d'autres de plus grande implication. Je pense que même pour connaître ce dont on parle, on doit l'avoir pratiqué. Mais à condition, bien sûr, de ne pas,
pas rester dans le phénomène qu'on étudie, parce qu'autrement on ne peut plus en parler. Mais pour moi, je réponds pas directement à votre question. Je ne pourrais pas comprendre le camp d'Omblay brésilien si j'en avais pas fait partie et si j'avais pas célébré les rites avec les gens.
Tout à fait, mais du coup, est-ce que ce ne serait pas une forme de réponse possible à la question que posiez tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette demande de précision analytique extrême qui nous déconnecte en fait d'une certaine manière du reste, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas pour le coup là un enjeu qui consiste à se donner les moyens d'argumenter et de faire valoir la place que peut avoir une expérience propre de l'ethnographe par rapport au terrain qu'il a et de le faire valoir comme tel. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les ethnométhologues, en fait, il me semble, moi j'interprète un peu comme ça la question, essaye de rentrer dans cette précision et dans ce degré-là de détail, c'est aussi une façon de s'abstraire soi-même en tant qu'observateur de la situation qui est en train d'être analysée. Or, est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas se dire qu'un des enjeux, précisément, peut-être en termes méthodologiques d'ailleurs, c'est de se dire qu'on ne peut pas, enfin, cette opération-là est dangereuse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre son propre corps en tant qu'observateur, qu'ethnographe, que participant, on ne peut pas l'abstraire de l'analyse et de l'observation qu'on fait de la situation. Donc du coup, il faut trouver des procédés ou des procédures de terrain qui permettent de réintroduire la place qu'on a en tant que telle dans le dispositif d'observation qu'on met en place.
En anthropologie, c'est rythmique, c'est vibratoire. L'implication et la désimplication sont les deux temps de la respiration du chercheur. Je ne dirais pas plus l'un que plus l'autre. Mais dans ce mouvement d'être à l'intérieur et d'être à l'extérieur.
Sauf que pour l'instant, c'est l'extériorité
qui est toujours prévalue. C'est comme si pour connaître une société qui n'est pas la nôtre, on déconseillait d'apprendre la langue de cette société. Évidemment qu'on ne peut pas le faire. C'est notamment par la connaissance de la langue qu'on va progresser dans l'étude des autres. Mais il y a aussi des dangers de cette attitude qui consiste, on va s'immerger, on va être dedans, on saura ce qu'on dit. Et...
Bien sûr. Non, mais c'était par rapport à la demande aussi de résistance, en tout cas, cette idée-là qu'il y a le type de pensée dans lequel on est, ou d'approche dans lequel on est, c'est pas forcément un type d'approche qui est partagée, et que si elle n'est pas partagée, c'est aussi parce qu'il y a peut-être aussi des obstacles de cet ordre-là qui consistent à refuser la pertinence d'une implication du chercheur dans le travail de terrain, comme si les choses pouvaient se passer dans une pure position d'extériorité.
Oui, voilà. Oui. C'est important que vous posiez cette question, parce qu'on n'en avait pas encore parlé depuis ce matin. Mm-hmm.